Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus et bienvenue donc dans cet endroit pour la rencontre avec Monique Dolin-Dufresnel. Cette rencontre est organisée donc pour la sortie du livre Le dernier joyau des Romanov, sorti aux éditions Sud-Ouest. Je tiens également à remercier la librairie Mola de nous accueillir et de mettre à disposition ses locaux et également d'avoir fait cette magnifique vitrine, je ne sais pas si vous l'avez vue en arrivant, qui met très en valeur le livre, c'est vraiment de toute beauté. Merci beaucoup. Alors Monique Dolin-Dufresnel, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous avez été pendant des années directrice de la bibliothèque de Sciences Po Bordeaux, où vous avez également été chargée de cours. Actuellement, vous dispensez des cours de culture générale à l'Université de Bordeaux et vous êtes également auteur de biographies historiques, notamment donc, de Pierre-Paul Riquet, Henri Russel et le pape Clément V.
C'est ça.
Voilà. Alors, ce qui fait que Le dernier joyau des Romanov est votre quatrième ouvrage, mais c'est également votre premier roman.
C'est ça.
Voilà. Alors, vous restez quand même dans votre domaine de prédilection, puisqu'il s'agit d'un thriller historique. Et qui se déroule à cheval sur deux périodes, la période de 1914 d'une part et les années 1990 d'autre part. Voilà. Alors pour faire un rapide résumé pour ceux qui n'auraient pas encore vu le livre, nous sommes en juin 1914, nous suivons le lieutenant Dimitri Malkin qui est chargé par la reine Alexandra, reine d'Angleterre. Il est chargé d'apporter un joyau inestimable à sa sœur, la tsarine mère de Russie. Et c'est un joyau qui est exceptionnel à plusieurs titres, puisque d'abord c'est un œuf de Fabergé, donc il est d'une valeur inestimable, mais il a cette particularité de fermer à clé. Et évidemment, on ne sait pas ce qu'il contient. On entend juste un petit bruit quand on le secoue, mais bon, mystère. Alors, le lieutenant Malkin tente de s'acquitter de sa tâche au mieux, mais évidemment, on le rappelle, on est en juin 1914, donc la guerre éclate, ce qui ne va pas lui faciliter la tâche. Parallèlement à ça, en 1990, nous sommes à Bordeaux. Camille est une jeune généalogiste successorale et a pour cliente Madame de Limeuil, et, qui lui demande de chercher des héritiers dont elle a perdu la trace depuis des décennies. On comprend vite que chaque époque va éclairer l'autre, c'est-à-dire que plus on va avancer dans l'enquête de Camille, mieux on va comprendre ce qui s'est passé donc, dans les années 1914, notamment au lieutenant Malkin. Alors, où est passé cet œuf de Fabergé? Que contenait-il? Et surtout, pourquoi Camille a l'impression qu'on s'en prend à tous les témoins de cette affaire? Voilà. Alors, première question que j'aimerais vous poser, Monique, on peut se la poser directement en regardant la couverture, c'est pourquoi vous êtes intéressée particulièrement au Romanov pour ce livre?
Alors, d'abord, merci Pierre Moquet, qui est éditeur, d'être ainsi l'intervieweur pour les quelques minutes que je vais passer, enfin les quelques minutes, l'heure et demie plus exactement que je vais passer avec vous. Donc pourquoi les Romanov? L'histoire de la famille Romanov est une histoire assez tragique, du moins dans ce que l'on en connaît. Il y a une phrase de Madame de Staël qui dit « En Russie, rien n'est secret, tout est mystère ». Et évidemment, c'est un appel, en quelque sorte, à essayer d'enrichir, si je puis dire, ce mystère autour des Romanov. Bien entendu, tout le monde ici a entendu parler de l'affaire Anastasia. Mais il y a d'autres mystères autour de l'assassinat de la famille impériale russe, et c'est cela que je voulais essayer d'insérer dans cette histoire. Le dernier joyau des Romanov, comme l'a dit Pierre, c'est ce fameux œuf de Fabergé, mais qui n'est que le prétexte de remonter dans l'histoire tragique de la fin des Romanov. C'est-à-dire, effectivement, l'histoire démarre en 1914, mais la famille Romanov a été assassinée en juillet 1918, c'est-à-dire presque un an après le début de la révolution d'octobre 17.
Oui. Alors, justement, pourquoi précisément un œuf de Fabergé?
Parce que c'est un joyau emblématique de la dynastie des Romanov. Et tout le monde connaît Fabergé, mais je rappelle rapidement, c'est Pierre-Carl Fabergé qui est l'héritier de la famille Fabergé, qui sont des joailliers très connu et très important en Russie. Et c'est Pierre-Carl Fabergé a fabriqué, à la demande du père de Nicolas II, un œuf que le père de Nicolas II, le tsar Alexandre III, offrait à sa femme, l'impératrice, tous les ans à Pâques. Quand Alexandre III est mort, son fils Nicolas II a repris la même coutume, si je puis dire. Et donc, Nicolas II a offert à sa mère et à sa femme, tous les ans à Pâques, un œuf. Fabergé, évidemment, fabriquait d'autres œufs pour des aristocrates russes ou autres, mais également des objets comme des boîtes à musique, tout un tas d'objets de joaillerie de très, très grande et belle facture. Et on a recensé à l'heure actuelle à peu près 52 œufs impériaux, puisqu'on les appelle comme ça, offerts par les différents tsars à leurs femmes ou mères. Et sur ces 52 œufs, il y en a 7 dont on ne sait pas où ils sont passés. La reine d'Angleterre en possède quelques-uns, mais il y en a 7 qui ont disparu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on en a retrouvé un dans une vente, dans un marché aux puces aux États-Unis, et un œuf qui vaut plusieurs millions de dollars. Donc, si par hasard vous retrouvez un œuf de Fabergé, ne le jetez pas, ça peut servir. Donc, l'œuf de Fabergé, parce que c'est un objet emblématique de la, on va dire, de la richesse aussi de la famille impériale Romanov jusqu'au dernier jour de la dynastie, c'est-à-dire jusqu'à 1917.
Mais alors, du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des œufs qui ferment à clé comme ça ?
Oui. La plupart des œufs, d'ailleurs, fabriqués par Fabergé pour ces fameux œufs impériaux, s'ouvrent. Et à l'intérieur, il y a un objet, une miniature extrêmement précieuse, extrêmement fine, qui est la clé, si je puis dire, de ces œufs. Et c'est une des caractéristiques des œufs de Fabergé, donc que l'on puisse les ouvrir et d'avoir quelque chose dedans.
D'accord. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant dans le livre, c'est qu'on retrouve des personnages qui sont devenus célèbres aujourd'hui, comme Rasputin, on retrouve Lénine. Alors, les descriptions que vous en faites ne sont pas toujours flatteuses pour eux, mais c'est notamment Rasputin. Est-ce que c'était plutôt proche de la réalité ou est-ce que c'est la licence de la fiction ?
Non, c'était proche de la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rasputin, Lénine et Nicolas II étaient quasiment du même âge. Nicolas II était né en 1868, Lénine en 1870 et Rasputin en 1869. Donc ils étaient quasiment du même âge, ce que l'on a peut-être tendance à oublier. Et la description que je fais de Rasputin, parce que mon héros le rencontre, alors je rassure les gens, c'est au début du livre. Donc ça n'obère pas la suite de l'histoire. Rasputin a eu une influence assez néfaste auprès de la famille impériale. Tout le monde sait que le tsarevitch, le seul fils, le fils unique de Nicolas II et de l'impératrice Alexandra, était hémophile. Et Rasputin disait qu'il pouvait guérir le tsarevitch ou du moins éviter qu'il souffre pendant ces crises d'hémophilie. Et donc, il a eu une emprise très importante à la cour de Russie et était quelqu'un qui avait l'oreille de l'impératrice essentiellement. Et au début de la guerre de 14, en 1915, en 1916, le tsar a pris la tête de son armée en Russie sur le front de allemand. Et donc a confié le gouvernement de la Russie à sa femme, qui, elle, s'est appuyée sur les conseils de Rasputin. C'était quelque chose d'inconcevable pour la plupart des ministres, même du peuple russe, ce qui fait que Rasputin était détesté pratiquement par toutes les couches de la société. Il a été assassiné en décembre 1916 par le connaît, le prince Youssoupov, qui était le mari de la nièce de Nicolas II. Donc, Rasputin était un personnage, si je puis dire, incontournable, si on parle de la fin des Romanov entre 1914 et 1916.
Et c'est amusant aussi pour Lénine qu'on voit vraiment comme le théoricien qu'il était au début de sa vie et pas du tout comme l'homme politique qu'il est devenu.
Alors Lénine, évidemment, j'en parle, je ne vous dis pas où ni quand, mais j'en parle. Lénine était, au début de la guerre de 14, était en Suisse, à Zurich, et effectivement était un théoricien de la Révolution, mais juste un théoricien, ne pensait pas qu'il pourrait prendre le pouvoir. Et il a pris le pouvoir, mais de manière, en deux fois. Une première fois quand il est revenu dans le fameux wagon plombé en 1916 et en 1917, pardon, en 1917, et ensuite une deuxième fois au moment de la Révolution d'octobre. Mais il faut lire le livre parce que c'est très difficile d'expliquer en quelques mots l'histoire de la Révolution russe, mais qui est une des parties prenantes de l'histoire, de la petite histoire du roman.
Alors, on a vu que le lieutenant Malkin avait été surpris par la guerre, par la Grande Guerre. Est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'il y a eu des soldats russes sur le front français ?
Oui. Ce que l'on ne sait pas, c'est que la France a proposé à la Russie un accord en offrant, si on peut dire comme ça, en offrant des armes et des munitions, parce que l'armée russe, l'armée du Tsar, était très mal équipée au début de la guerre et a subi un certain nombre de défaites. Donc, le gouvernement français a passé un accord avec le gouvernement du Tsar, échange armes et munitions contre hommes. Il y a eu 4 brigades, en 1916 toujours, 4 brigades qui sont parties de la Russie, mais par Moscou, le Transsibérien, en bateau depuis Vladivostok, et qui sont arrivées, la première brigade en avril 1916 à Marseille, la deuxième brigade 2 mois plus tard dans les Dardanelles, la troisième brigade à Brest, 2 mois plus tard aussi, et la dernière brigade également dans les Dardanelles. Donc deux brigades se sont battues sur le front français en Champagne et deux brigades se sont battues avec les Français dans les Dardanelles. La présence de soldats russes avec des uniformes français sur le territoire français, sur le front français, est tout à fait exacte. Et j'en parle évidemment puisque c'est un des éléments du scénario, du récit de ce livre.
Alors, mais vous allez, et même votre réponse en témoigne, vous allez souvent dans le livre assez loin dans le détail. C'est-à-dire, je pense notamment à la description des trains, les uniformes qui peuvent être croisés, et même des menus. Quelle est la part de vérité ? Quelle est la part du roman ?
Alors, tout ce que je donne comme détail sur la vie jusqu'au 17 juillet 1918, je vais expliquer après pourquoi. Jusqu'au 17 juillet 1918, tout ce que je raconte est vrai. Enfin, j'inclus, si vous voulez, des héros de romans, des héros de fiction, dans une histoire qui est réelle. Mais par exemple, quand je dis tel jour, il pleuvait à Paris, c'est que ce jour-là, il pleuvait à Paris. Alors, j'ai regardé les journaux de l'époque, en particulier le Figaro, ou d'autres journaux qui donnaient la météo. Quand, par exemple, mon héros prend le train à un endroit donné et que le train s'arrête dans telle ou telle gare, c'est parce que j'ai eu les horaires de l'époque du train et je sais comment était fait l'intérieur du train. Donc toutes les descriptions sont vraies. Et évidemment, c'est le principe aussi d'un roman, c'est qu'on mélange des héros de fiction à un décor qui est un décor tout à fait réel.
Ouais, c'est assez impressionnant. Et du coup, même les correspondances des trains, les horaires, les calculs par rapport au fuseau horaire, tout est bordé de ce point de vue-là.
Oui, oui. Alors, je fais une petite parenthèse. J'avais envie de mettre un train dans ce livre. Enfin, il y en a même plusieurs trains, mais il y en a un au tout début du livre. Je suis très admirative de Hergé. Et Tintin chez les Soviets, si vous avez lu Tintin chez les Soviets, il y a un train au début. Tintin prend le train pour aller en Russie. Moi, c'est l'inverse. Mon héros, il va prendre le train à Saint-Pétersbourg pour venir à Paris. Et donc, cette aventure de Tintin dans Tintin chez les Soviets est aussi un des éléments dont je me suis servi pour écrire ce livre.
Justement, en parlant des sources que vous avez utilisées pour ce livre, vous citez, votre héroïne Camille se retrouve aux archives du Vatican. Là encore, la description des lieux semble très précise. Est-ce que vous vous êtes basé sur des documents? Comment vous avez fait?
Oui, alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'histoire se passe sur deux époques. Première époque, 1914-1918, et ça va même jusqu'à 1940. Deuxième époque, 1990, à Bordeaux. Donc cette généalogie successorale, Camille Maurier, puisque tel est son nom, va faire un certain nombre de recherches, en particulier aux archives secrètes du Vatican. Pourquoi j'ai choisi les archives secrètes du Vatican? Parce que j'y suis allé, j'y ai travaillé pour le précédent livre que j'ai écrit, qui était la vie du pape Clément V. Le pape Clément V, qui est un pape bordelais, c'est le seul d'ailleurs, marqué, c'est vite vu, puisqu'il est un archevêque de Bordeaux. Et le pape Clément V, c'est celui surtout qui a dissous l'ordre des Templiers. Et aux archives secrètes du Vatican, il y a un immense rouleau de parchemin qui est le procès verbal du procès des Templiers, et donc il est conservé aux archives secrètes du Vatican. C'est un endroit fabuleux, les archives secrètes du Vatican. J'avais envie d'y aller depuis longtemps. C'est assez compliqué pour avoir des autorisations, mais une fois qu'on y est, on est dans un autre monde. Mmh. Et tout ce que je décris dans ce livre sur, j'allais dire, les démarches que fait Camille Maurier pour essayer de retrouver, alors il ne s'agira pas du procès des Templiers, mais autre chose que vous découvrirez en lisant le livre. Mais toutes les démarches qu'elle fait, toutes les descriptions qui sont dans le livre, c'est exactement ce que j'ai vu moi en allant aux archives secrètes du Vatican. Et je précise d'ailleurs, le terme secret n'est pas au sens classique du terme. Les archives secrètes, ça veut dire les archives privées. Donc elles sont, on va dire, à usage de ceux qui demandent des autorisations pour venir les consulter. Mais c'est un monde un peu à part parce qu'elles sont à l'intérieur du Vatican. Et elles sont en sous-sol de la cité du Vatican, d'une partie de la cité du Vatican, et il y a 85 kilomètres linéaires de rayonnage. Et vous imaginez là-dessus tous les documents de l'histoire de la chrétienté depuis les premières Bibles de quelques siècles à peine après Jésus-Christ. Et c'est un lieu assez fabuleux. C'est vraiment un endroit... Alors, petite précision, il y a certains auteurs que je ne citerai pas, qui ont écrit sur Léonard de Vinci, par exemple, qui n'ont jamais mis les pieds aux archives secrètes du Vatican. Les personnels qui étaient dans ces archives me l'ont certifié. Donc on ne l'a jamais vu. Et il décrit effectivement des endroits qui n'existent pas. En revanche, ceux qui existent, il y a à l'intérieur des archives un bunker petit, à l'intérieur duquel il y a des documents, alors qu'on dirait classés secret défense, quelque chose comme ça, où seul le pape a le droit d'aller. Un particulier comme moi ou même un membre du clergé n'a pas le droit d'aller dans ce bunker. Et ça date depuis... c'est Jean-Paul II qui a rénové complètement les archives pour les mettre à la disposition des chercheurs. Et comme mon histoire avec Camille se passe en 1990, en lisant le livre, vous comprendrez pourquoi c'est 1990 et pourquoi c'est pas maintenant, ça pourrait être en 2015. Non, c'est 1990, quand Jean-Paul II était pape, et donc la logique est respectée de l'autorisation possible d'aller consulter ses archives.
Est-ce que vous avez des habitudes d'écriture? Est-ce que vous faites, par exemple, dans vos livres, des clins d'œil?
Oui. Oh, ça, c'est une... C'est par hasard, parce que j'avais commencé pour le premier livre. En fait, vous trouverez toujours dans chacun de mes livres une recette de boisson alcoolisée. Ne croyez pas que c'est parce que j'habite Bordeaux, mais non. J'en avais mis une sur le premier livre, et puis je me suis dit, tiens, si j'en mets une dans le second, parce que l'histoire s'y prêtait... Et puis j'ai continué. Et en réalité, c'est à la page 140, je le dis pour ceux qui achètent le livre, page 140, il y a une recette de boisson alcoolisée. En fait, c'est un cocktail que j'ai inventé. Mais pour arriver à trouver le bon cocktail, j'ai payé de ma personne pour essayer de trouver la bonne recette. Et vous verrez qu'il est pas mal.
C'est une conscience professionnelle qui vous honore.
Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
D'accord. Je tiens d'ailleurs à dire à votre lectorat que quelques surprises seront réservées tout au long du roman. J'en dis pas plus. On sait aussi que Dimitri Malkin est en charge de transporter un autre bijou, enfin un objet très précieux, qui est une boîte à musique.
Oui.
Alors pourquoi, et cette boîte à musique joue une mélodie très particulière, qui est le soir de Ludwig Schitt.
Alors, oui, l'histoire démarre, je vous dis, vous allez le voir très vite, c'est la deuxième ou troisième ou quatrième page. L'histoire démarre par le fait que cet officier russe, donc Dimitri Malkin, doit apporter à la reine Alexandra d'Angleterre, qui est la sœur de l'impératrice mère, c'est-à-dire la mère de Nicolas II, doit apporter une boîte à musique. Et l'air de la boîte à musique est un air d'un compositeur danois qui s'appelle Ludwig Schitt. Pourquoi ce compositeur danois ? Parce que la mère de Nicolas II et la reine Alexandra d'Angleterre, c'est-à-dire la mère de Georges V, étaient sœurs, et sœurs princesses danoises. Donc j'ai cherché un compositeur danois, et j'ai trouvé ce Ludwig Schitt qui a écrit un air qui s'appelle « Le soir ». Si vous allez sur YouTube, vous allez le trouver, et qui est un air qui correspond parfaitement à un air de boîte à musique. Donc j'avais besoin d'un compositeur danois, et comme ils sont peu connus, les compositeurs danois, je me suis dit que celui-là, ça serait peut-être l'occasion de le faire connaître. Alors je précise que la reine Alexandra, sœur de l'impératrice douairière russe, était la femme d'Édouard VII, fils de la reine Victoria. Je le cite assez rapidement, cet Édouard VII était connu parce que, bon, le fameux prince de Galles, et qui passait pas mal de temps en France, souvent dans des dîners, des soupers fins, etc. Il a été roi très peu de temps, puisqu'il a été ensuite, c'est son fils Georges V qui lui a succédé, mais comme c'était quelqu'un d'assez coureur, on rapporte que la reine Alexandra aurait dit, quand elle a appris qu'il était mort, elle a dit, ça y est, dorénavant, je saurai où il passe ses nuits. Je ne sais pas si on dit ça, mais c'est certainement vrai, parce que c'était un chasseur à tous les sens du terme.
Le livre est sorti peu avant les commémorations du massacre d'Ekaterinbourg, et j'aurais simplement voulu savoir si ce que vous en aviez pensé de ces commémorations.
Le 17 juillet, 2018, effectivement, il y a eu, outre la Coupe du monde de foot, en Russie, il s'est passé aussi autre chose. Et là, je vais essayer d'expliquer un peu plus précisément aussi une des clés de ce livre. Il s'est passé la commémoration de l'assassinat de la famille impériale russe, qui, comme vous le savez peut-être, même sûrement, a été assassinée la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Et la nuit du 16 au 17 juillet 2018, il y a eu une procession de 100 000 personnes russes, donc, qui sont partis à pied la nuit, à l'heure supposée où le tsar a été assassiné, qui sont partis à pied de l'endroit de la fameuse maison Ipatiev où la famille impériale a passé ses derniers jours, et qui a été démolie en 1977 par Boris Eltsine. Et à la place, on a construit une cathédrale orthodoxe, enfin une église orthodoxe plus exactement. Bien, cette foule de 100 000 personnes est partie à pied de la maison Ipatiev jusque dans un lieu qui s'appelle Topkapi, qui est la clairière où aurait été enterré le tsar et sa famille. Donc à peu près 20 km à pied, en pleine nuit, pour commémorer cet assassinat. Ce qui veut dire que le souvenir de la famille impériale russe est quand même assez important en Russie. Et l'histoire de Yekaterinbourg, c'est un des éléments importants de mon livre, Le dernier joyau des Romanov, puisque j'intègre dans l'histoire l'assassinat de la famille impériale. Et l'intérêt aussi que l'on porte à l'assassinat de la famille impériale, il est de deux ordres. Premièrement, on a du mal à comprendre comment une famille, surtout des enfants, ont pu être assassinés de manière aussi sauvage et aussi barbare. Il y avait le tsar et la tsarine avaient 5 enfants, 4 filles et le fameux Tsarevitch, le petit Tsarevitch, dont je parlais tout à l'heure. Les 4 filles, d'abord, c'était des enfants qui étaient très beaux physiquement. Les 4 filles, l'aînée Olga avait 22 ans. La seconde, Tatiana, avait 21 ans. La troisième, Marie, avait 19 ans. Et la quatrième, Anastasia, avait 17 ans. Et le Tsarevitch, 13 ans. On imagine mal que ses enfants aient pu être assassinés. Bon, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que on a tous en tête l'affaire Anastasia et la possibilité que peut-être, justement parce qu'on n'assassine pas des enfants, peut-être certains auraient été exfiltrés, auraient été sauvés de ce massacre. Et vous savez peut-être qu'il y a une théorie à l'heure actuelle, une théorie qui tient parfaitement la route, comme quoi la tsarine et ses filles auraient été exfiltrées de Russie la veille du massacre, c'est-à-dire la veille du 16 juillet 1918. Alors, si on se remet dans l'histoire, la France et l'Allemagne sont encore en guerre. La Russie a signé la paix de Brest-Litovsk, c'est-à-dire l'armistice pour l'instant. Donc, le Kaiser, Guillaume II, est toujours empereur d'Allemagne. Et la théorie dont j'ai entendu parler, et je vous dirai après comment, cette théorie dit que le Kaiser aurait... dans ses prisons, des opposants au tsar, des bolcheviks. Et se serait servi de ces bolcheviks comme monnaie d'échange pour que la tsarine, qui était née princesse allemande, elle s'appelait, son nom de jeune fille, c'était Alix de Hesse-Darmstadt, donc c'était une Allemande. Donc pour que la tsarine et les quatre filles puissent être exfiltrées de Russie et sauvées, parce qu'elles étaient demi-allemandes. Cette théorie est une théorie dont on n'entend parler que depuis, on va dire, une trentaine d'années ou une quarantaine d'années à peine. Jusqu'à présent, lorsqu'on parlait de personnes ayant survécu au massacre, on pensait à l'affaire Anastasia. L'affaire Anastasia, je rappelle rapidement, c'est une jeune femme qui, en 1920, se serait jetée dans un canal à Berlin, le Landwehrkanal, du haut d'un pont et qui a été sauvée, par quelqu'un qui passait par là et on l'a hospitalisée. Elle est restée à l'hôpital pendant quelques temps et on s'est rendu compte qu'elle était amnésique. Et sa voisine de chambre, un jour, en feuilletant un journal dans lequel il y avait des photographies de la famille impériale russe, lui dit « Mais vous ressemblez à la grande-duchesse Tatiana ». Et là, elle aurait répondu « Non, je ne suis pas Tatiana, je suis Anastasia ». Et c'est à partir de là que l'affaire Anastasia a démarré et a duré tout le XXe siècle. Et donc, en se faisant passer, si je puis dire, pour Anastasia, il y a eu un grand nombre de gens qui disaient « Oui, c'est Anastasia », d'autres qui disaient « Non, c'est une ça ne peut pas être elle ». Et curieusement, sa grand-mère, donc la fameuse reine, l'impératrice, Maria Féodorovna, la sœur de la reine d'Angleterre, qui était la princesse de Danemark, Dagmar de Danemark, qui était son vrai nom, elle a été sauvée de la Révolution, elle a pu s'échapper et finir ses jours à Copenhague. Et elle n'a jamais voulu rencontrer celle qui se disait sa petite fille, Anastasia. Jamais. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a retrouvé les corps très tardivement. Enfin, on a retrouvé des corps très tardivement. Et donc, au moment où Anastasia a surgi, eh bien, on ne savait pas si la famille impériale était morte ou pas. On n'a jamais su... Enfin, le massacre de la famille impériale, on le sait maintenant parce qu'on a retrouvé des squelettes, on a retrouvé des restes que l'on a attribués à la famille impériale avec des analyses ADN. Je vais en reparler. Mais, je veux dire, rien n'est moins sûr. Et donc, il semblerait que l'impératrice et ses quatre filles soit parti, donc la veille de l'assassinat du tsar. Le tsarevitch, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. On pense qu'il est mort, mais beaucoup de gens se sont dit être le tsarevitch. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'en Russie, il y a un dénommé Vassili Filatov qui a dit qu'il était le tsarevitch. En fait, c'était un fils de cordonnier de l'Oural, ce Vassili Filatov, hémophile, parlant russe, français, allemand, et anglais. Pour un fils de cordonnier, c'est un peu surprenant. Bon, il dit qu'il est, il laisse entendre qu'il est véritablement le tsarévitch. Bon, mais je tiens quand même à dire qu'il y a eu 81 Alexis dans les pseudo-survivants. D'ailleurs, par parenthèse, j'avais noté le nombre. Il y a eu 28 Olga, 33 Tatiana, 53 Marie, 34 Anastasia et 81 Alexis. Là, on peut faire son choix. Mais ceux qui sont les plus sérieux, et c'est une théorie dont certains historiens, et non des moindres, approuvent, on pense que la tsarine et au moins Marie et Olga sont partis donc de Russie, sont arrivés en Ukraine et sont en particulier l'impératrice est restée dans un couvent en Podolie qui est la partie occidentale de l'Ukraine et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, elle était encore en vie et donc lorsque les Allemands, l'Allemagne a envahi la Pologne et qu'il y a eu ce fameux pacte germano-soviétique, l'impératrice mère et ses filles seraient parties grâce au Vatican. D'où l'intérêt des archives secrètes, je vais y revenir, serait partie grâce au Vatican en Italie. Et l'impératrice mère aurait été, alors je ne vais pas dire enfermée, mais se serait cachée dans un couvent de Florence, le couvent des Sœurs della Mantellate, et serait morte pendant la guerre à Florence. Et dans le cimetière de ce couvent, il y aurait une tombe avec le nom italianisé de Alix de Hesse, une tombe au nom de Alicia d'Asia, d'Asia. Je vous livre l'information. Quant aux filles Marie et Olga, on a retrouvé, il y a très peu de temps aux archives du Vatican, dans les années 2010, le journal d'Olga, mais un journal qui a été écrit après 1918. Bon, si c'est un journal qui a été écrit après 1918, c'est qu'elle était vivante. Et pourquoi aux archives secrètes du Vatican ? Est-il ce journal ? Parce que dans les années 50, ou fin des années 40 plus exactement, donc le pape de l'époque était Pie XII. La religieuse qui était un peu la gouvernante de Pie XII, qui s'appelait sœur Pascalina Lénert, aurait facilité une entrevue entre le pape Pie XII et les deux grandes duchesses Olga et Maria, donc qui ont demandé à rencontrer le pape, et le pape leur aurait accorder une rente financière pour qu'elle puisse vivre. Je vous livre tout ça avec beaucoup de parenthèses, beaucoup de guillemets, mais c'est une des hypothèses dont on entend parler à l'heure actuelle et qui justifierait peut-être le fait qu'il y ait eu des survivants à ce massacre. Donc voilà à peu près l'histoire. Alors je reviens un instant à Anastasia. Il s'avère que qu'on a appelé Anna Anderson, n'est pas la vraie, puisqu'on a fait des analyses ADN. Et j'en viens à ces analyses ADN. Les analyses ADN que l'on a faites il y a très peu de temps sur des cheveux d'Anna Anderson, parce qu'Anna Anderson est morte en 1984. Vous voyez, c'est pas très vieux, en disant toujours quelle était la grande duchesse Anastasia. Mais elle a épousé à la fin de sa vie un professeur américain qui s'appelait Jack Manahan et elle est enterrée aux États-Unis, sauf qu'elle a demandé à être incinérée. Mais on a gardé ses cheveux et on a fait des analyses ADN et on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était une Polonaise qui s'appelait Francesca Chanskowska. Donc absolument pas donc Anastasia. Et alors, tant qu'on n'avait pas retrouvé les corps, je veux dire, tout était possible. Alors là, je vous donne une autre version qui dit que la famille impériale a été réellement assassinée à Ekaterinbourg dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. En 1979, un Russe qui avait trouvé dans les archives du bolchevisme à Moscou a retrouvé le rapport de la, comment on peut dire, du chef du commando qui a assassiné la famille impériale et qui a dit exactement à quel endroit ils étaient enterrés. Donc évidemment, il n'a rien dit. Il est allé dans le bois de Koptiaki à côté de Yekaterinbourg. Il a creusé et il a trouvé des squelettes et des crânes. Il a pris un de ces crânes, pensant que c'était celui de Nicolas II, et il l'a emporté chez lui à Moscou, le crâne. Il a tout rebouché la fosse, il est reparti avec son crâne. Il l'a mis dans son salon, et ça finit par se savoir qu'il avait, soi-disant, le crâne du tsar dans son salon. Ça fait un peu désordre, et quand il s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, il est allé le re-enterrer, au même endroit. En 1990, le mur de Berlin était tombé, l'URSS n'existait plus, c'était Boris Eltsine, enfin Boris Eltsine était le président, et Boris Eltsine a ordonné des fouilles officielles. Et on a recommencé donc des fouilles dans l'endroit où il avait trouvé les crânes, et là on a trouvé 9 squelettes. Et ces 9 squelettes, on a essayé de les identifier. Donc, ces 9 squelettes, apparemment, semblaient être ceux du tsar, de la tsarine, de 4 de leurs serviteurs, c'est-à-dire un médecin, le docteur Botkin, la femme de chambre de la tsarine, le valet de chambre du tsar et le cuisinier. Et 3 filles, uniquement 3 filles, qui étaient, on a essayé de les repérer, qui étaient Olga, Tatiana et Anastasia. Bon, voilà. Mais manquait... le tsarevitch et Marie. Quelques années plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard, on a découvert un peu plus loin une fosse où, effectivement, il y avait des restes humains qui ont été aussi analysés, et on s'est rendu compte que c'était des restes d'un adolescent et d'une jeune fille qui étaient frères et sœurs. Après, pour pouvoir identifier qui étaient ces personnes, on a demandé à Philippe d'Édimbourg, le mari de la reine Élisabeth, dont la grand-mère était la sœur de la tsarine. Donc, Philippe d'Édimbourg a donné un peu de sang, on a fait des analyses ADN, et on s'est rendu compte que, eh bien, les squelettes qui étaient dans... une partie des squelettes, du moins, qui étaient dans la première fosse, en tout cas les 3 squelettes de jeunes filles, plus le squelette de l'impératrice, étaient vraiment de la même famille. Mais pour savoir quel était le squelette de Nicolas II, on a récupéré un peu de sang de la vareuse d'uniforme de son grand-père, qui était Alexandre II, et qui est mort assassiné. Et on a gardé la vareuse avec les taches de sang du grand-père, donc d'Alexandre II, et on a pu, comme ça, faire une analyse ADN et voir que c'était vraiment celle de Nicolas II. Après, bon, tout est possible, on peut remettre en question les analyses ADN. Petite parenthèse quand même, l'Église orthodoxe ne reconnaît pas les restes des personnes qui ont été ensevelies dans la nécropole impériale Pierre et Paul, de l'église Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, elle ne reconnaît pas ces restes comme étant ceux de la famille impériale. Je vous livre l'histoire telle que je la connais. Voilà, j'étais un peu longue, mais il fallait expliquer un peu. Et tout ça, vous allez le retrouver mélangé à l'histoire dans le livre, bien évidemment. Bien évidemment.
C'est vraiment très impressionnant. Et c'est effectivement peut-être la question, je ne sais pas si on m'entend, peut-être que la question, c'est justement d'accepter l'idée qu'on puisse, et vous décrivez en partie donc le massacre qui a eu lieu ce jour-là, peut-être que c'est aussi la difficulté d'accepter qu'on puisse être aussi barbare envers des enfants, et peut-être que c'est aussi ça.
Il faut savoir aussi que la fosse dans laquelle on a trouvé les restes du tsar et de sa famille n'est pas la seule. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de massacres pendant la Révolution russe et après, ce qui fait que ceux qui disent que ce ne sont pas les restes du tsar et de sa famille ont tout à fait, je veux dire, le droit de le dire, parce qu'on peut très bien dire que c'est d'autres familles, d'autres gens qui ont été assassinés, parce que quand même, les restes sont en très mauvais état. L'idée de Yurovsky, de Jakob Yurovsky, le chef du commando qui a assassiné la famille, c'était que l'on ne retrouve pas les restes de la famille impériale. Donc, vous voyez, on a mis quand même très longtemps pour les retrouver. Donc, quand, dans son rapport, il dit que la nuit, la famille a été assassinée de manière sordide, je dois dire. Et si vous voulez, ils sont tous retrouvés dans le sous-sol de la maison Ipatiev. Et le tsar et la tsarine ont été tués tout de suite. Mais les grandes duchesses et le tsarevitch, non. Ils ont eu une agonie un peu plus longue dans des conditions vraiment sordides. Et donc, on a emporté les corps, on les a déshabillés et on les a démembrés à la hache. On a coupé à la hache certains corps pour les dissoudre à l'acide pour que ce soit qu'on ne trouve vraiment plus aucune trace. C'est ce qui explique aussi que pendant si longtemps, donc jusqu'en 1979, on avait aucune trace d'aucun membre de la famille impériale. Donc, si on n'a pas trouvé de traces, c'est qu'ils peuvent être vivants. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'était en 1979 que l'on a retrouvé, que ce Russe a retrouvé le crâne de Nicolas II. Mais quelques années auparavant, en 1971, il y a un livre qui est paru d'un dénommé Alexis de Durazzo, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Le titre du livre, c'était « Moi, Alexis, arrière-petit-fils du tsar ». Et il raconte dans ce livre tout ce que je vous ai dit sur l'exfiltration de l'impératrice et des grandes duchesses, expliquant que non, elles sont toujours en vie ou elles n'ont pas été massacrées. Alors il y a ces deux options. Soit toute la famille impériale est morte le 17 juillet 1918, soit il y a eu des survivants. Et c'est bien le mystère de cette histoire-là. De toute façon, quand je vous disais tout à l'heure la phrase de Madame de Staël qui disait en Russie « Rien n'est secret, tout est mystère », là, on y est en plein dedans. Alors, juste un dernier mot sur l'affaire Anastasia. C'est une affaire qui a défrayé la chronique pendant tout le XXe siècle, à tel point qu'il y a eu des films. Il y a eu au moins 4 films et des émissions des téléfilms, etc. Et 2 des films, vous les connaissez. Le dernier en date, c'est celui de Walt Disney, Anastasia. Non, l'histoire est fausse. Hein. Et il y en a eu un autre dans les années 50 avec Yul Brynner et avec Ingrid Bergman. Et Ingrid Bergman a quand même eu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Anastasia, donc ce film des années 50. Donc on est tous avec cette affaire Anastasia dans l'esprit.
Ça a marqué. Mais alors, ça fait partie des choses aussi que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que vous détournez pas les yeux devant ce qui peut être assez choquant, c'est-à-dire que notamment ce massacre-là, mais aussi ce qui a été la Grande Guerre, hein, la guerre de 14. J'aimerais bien, si vous le voulez, que vous lisiez un petit passage juste de votre livre. Donc, ça se passe donc sur le front.
Oui, parce que Dimitri Malkine, bon, certes, il est question des Romanov, bien évidemment, mais comme il est coincé en Europe et en France, et que sa mère est française, ça vous allez le savoir très vite, il est obligé de se battre aux côtés des Français. Et c'est vrai que je voulais que ce livre sorte au moment de du centième anniversaire de l'armistice de 1918. Et il y a des scènes de la guerre qui sont évidemment dans ce livre. Alors, je précise aussi que le régiment dans lequel il fait partie, ce qui arrive à ce régiment, c'est l'exacte vérité, puisque tous les régiments ont eu des récits un peu de leur bataille, et lui, il est intégré dans ces batailles-là. Donc, je vous lis juste quelques lignes, pour voir si ça vous donne envie de lire un peu plus. Dimitri devait retourner à la ligne de feu. S'il était courageux, il était néanmoins prudent, et n'avait aucune envie de se faire tuer. Courbé et zigzagant comme il pouvait entre les balles, il finit par rejoindre sa section. Le marmitage se poursuivait sans discontinuer et les hommes hésitaient à avancer malgré les ordres du commandant qui s'époumonait. Un déluge de feu fracassait la terre, crachant une fumée noire et brûlante. Les soldats n'avaient qu'une idée, se mettre à l'abri. Ils couraient de tous côtés, certains lâchant leurs sacs trop lourds et même leurs fusils. La grande prairie si calme ce matin-là était devenue le premier cercle de l'enfer. Dimitri suffoquait, essayant tant bien que mal de faire avancer sa troupe. Il se rendit très vite compte que c'était peine perdue. La plupart de ces hommes n'étaient pas des combattants. Un mois auparavant, ils moissonnaient leurs champs, travaillaient en usine, en atelier, tenaient un commerce, recevaient des clients au guichet de leur banque ou de leur administration. Pour beaucoup, c'était le premier jour d'une guerre qu'ils pensaient courte. Ils participaient, impuissants, à un massacre organisé dont ils faisaient les frais. Dimitri ordonna le repli, alors que les mitrailleuses allemandes crépitaient sans arrêt. Certains rampaient dans l'herbe comme pour se fondre avec la terre et se rendre invisibles. D'autres s'étaient réfugiés dans des fossés où leurs corps enchevêtrés et sanglants se traînaient lamentablement. D'autres encore, sur leurs chevaux, galopaient sabre au clair vers les mitrailleuses allemandes dans une charge héroïque totalement surannée. Avant que ne commence l'apocalypse, dans la brume et le silence du petit matin, Dimitri avait été saisi par les milliers de corolles pourpres des coquelicots, donnant à ce paysage les touches colorées d'un tableau de Monet. Depuis, l'herbe avait été retournée par les obus et la terre brune s'était progressivement couverte d'un autre rouge, celui du sang. Voilà, ça vous donne une idée à peu près, le récit des batailles de la guerre de 14, ça fait vraiment partie de l'ensemble de l'histoire.
On y est. Et puis enfin, une dernière question. J'aimerais savoir si vous avez d'autres romans en préparation.
Oula.
Un ou plusieurs.
Alors, oui. Ah. Vous savez, quand on écrit un roman, on pense toujours au suivant. Et oui, j'ai une petite idée. Mais je ne vais vous donner que la première date du début du livre, parce que vous verrez que dans celui-là, il y a 40 chapitres, et chacun a une date, ce qui permet aussi de se caler dans l'histoire. Je suis un peu obsédé par la chronologie, vous avez peut-être remarqué que j'aime bien les dates, mais ça permet aussi d'apprendre des choses aussi, parce que l'histoire de la guerre de 14 ou l'histoire de la révolution russe, on ne connaît peut-être pas toujours, on a un peu oublié, donc les dates, ça remet tout bien comme il faut. Donc, le prochain livre que je vais écrire, c'est un scoop que je vous donne là, la première date, c'est le 30 avril 1945 à Berlin.
Merci beaucoup, merci Dominique, bravo.
Merci. Merci beaucoup.